sportifs, c'est Hermano, vous êtes sur le podcast Nakan, le podcast des sportifs connectés. Je suis très heureux de vous recevoir sur cet épisode de la saison régulière et comme d'habitude, sur un épisode régulier, j'accueille mon grand ami Greg. Salut Greg.
Salut Hermano, je suis très content de te retrouver dans le même espace-temps cette fois-ci parce que la dernière fois on a enregistré un épisode un petit peu distant dans le temps et puis là ben, on se retrouve face à face, ça fait plaisir.
Mais ouais, mais ça, c'est, tu sais, c'est les effets du confinement, de la reprise du boulot, de la continuité de l'entraînement et puis de nos agendas de ministre, quoi.
Ouais, bah, c'est ça. On se retrouve maintenant pendant une pause de midi à enregistrer cet épisode tous les deux. Donc, comme les auditeurs peuvent probablement l'entendre, moi, je suis en extérieur aujourd'hui parce qu'il fait grand soleil et puis pour respecter le mieux possible la distanciation sociale encore, eh ben, je me suis mis dans un parc à côté des bureaux et donc, du coup, s'il y a des bruits extérieur un petit peu inhabituel, ben c'est tout simplement pour ça.
Ouais, alors je t'avoue que j'ai fait exactement la même chose pendant le confinement, non seulement sur les épisodes qu'on a enregistrés tous les deux, mais aussi sur des épisodes que j'ai enregistrés sur mon podcast Dans les vestiaires, où, allez, je fais un petit peu de teasing, j'interview les sportifs de haut niveau, actifs ou retraités, et je leur pose des questions sur leur carrière sportive, sur le financement de leur carrière, voire sur leur reconversion, et d'ailleurs j'ai diffusé le dernier épisode ce matin avec Pascal Gentil, et celui-là était totalement en extérieur, il faisait super beau à ce moment-là, je devais être juste à côté d'un nid d'oiseaux et du coup on entendait très très bien les oiseaux qui chantent. Donc je pense que nos auditeurs vont apprécier en cette période estivale.
Mais oui, ça donne un petit peu de dynamisme probablement aux pistes audio qui composent notre podcast.
En parlant de dynamisme, je crois qu'on va parler d'un sujet relativement dynamique aujourd'hui. On avait décidé d'aborder le sujet des courses en réalité virtuelle, qui sont évidemment à l'ordre du jour en cette période de confinement ou de post-confinement, et puis de tous les impacts que ça peut avoir, notamment sur le circuit Ironman. Est-ce que ça te va comme programme, Greg ?
Bah écoute, oui, ça me semble un tout petit peu décalé par rapport à la météo extrêmement estivale que j'ai ici, de me dire qu'on va retourner sur du home trainer peut-être pour faire de la réalité virtuelle, mais ça a été le quotidien pendant le confinement. Et puis vu que les courses Ironman, en tout cas les triathlons de manière plus générale, vont pas reprendre de sitôt, on sait qu'il faudra probablement attendre la fin de l'été, voire le début de l'automne pour pouvoir se réaffronter sur de vrais triathlons. Si tout va bien, eh ben, en attendant, ben, il reste les courses virtuelles.
On a pas mal d'auditeurs qui sont triathlètes, mais quelles sont déjà les différentes distances en triathlon et celles sur lesquelles on peut s'affronter en réalité virtuelle ?
Alors, les distances en triathlon, on trouve vraiment tout. Hein. On trouve vraiment des distances très courtes qui vont avec 250 mètres de natation, 10, 15, voire 20 km de vélo, et puis ensuite entre 2 et 5 km de course à pied pour les formats les plus courts. Ensuite, on a un format qui est relativement standard, qui est le format classique, dit olympique, hein, qui fait 1,5 km de natation, 40 km de vélo, et puis 10 km de course à pied. Et puis ensuite, on a des formats plus longs. Alors, dans la franchise Ironman, on parle de Half Ironman et d'Ironman complet. Et puis, sur la Fédération internationale de triathlon, c'est un peu la spécificité, c'est qu'on a des distances qui sont légèrement différentes. Mais en gros, on reconnaît la distance Half Ironman avec 1,9 km de natation, 90 km de vélo et puis 21 km de course à pied, donc un semi-marathon. Et puis le double pour la distance complète Ironman, donc 3,8 km de natation, 180 km de vélo et puis un marathon, donc 42 km à pied.
Bon alors, je sais que toi, tu as déjà pratiqué toutes les distances du triathlon qui existent jusqu'à l'Ironman, hein, pas encore les multi-Ironman, les ultra-Ironman, mais... Non. Il faut savoir, chers auditeurs, qu'il me fait un gros non avec la tête. T'as quand même enchaîné quelques courses à quelques jours d'intervalle, donc t'en étais pas si loin que ça.
Oui, mais pas d'ultra Ironman dans le sens où je fais pas des déca Ironman. Enfin, je m'arrête à la distance Ironman traditionnelle, on va dire. C'est déjà un effort suffisamment exigeant pour ne pas en rajouter pour moi.
Ouais, effectivement, c'est déjà un effort suffisamment exigeant en extérieur, avec l'émulation de groupe des autres athlètes qui combattent avec toi, enfin à tes côtés, ou un peu avant ou un peu après. J'imagine que en mode réalité virtuelle, donc c'est-à-dire que pour replanter le cadre, réalité virtuelle, ça veut dire que... Mais comment on va nager d'ailleurs en réalité virtuelle, Greg ? Comment on nage en réalité virtuelle un triathlon ? Va falloir m'expliquer. Je sais que Yann Frodeno, donc champion sur Ironman, l'a fait au tout début du confinement, c'est-à-dire qu'il a nagé dans une piscine dans son hôtel. Ensuite, il a enchaîné sur son home trainer et ensuite, il a terminé évidemment sur son tapis de course. Comment est-ce que tu vois, toi, la partie natation en réalité virtuelle si on n'a pas une piscine chez soi ou on n'est pas dans un hôtel qui dispose d'une piscine ?
Alors, Ironman a tout simplement réglé le problème en supprimant la natation et puis en remplaçant la partie natation qui précède le vélo par une course à pied plus courte et puis en faisant un enchaînement en fait course à pied, vélo, course à pied. La course à pied se déroule dehors ou sur tapis de course, mais normalement dehors. Et puis la partie vélo sur les courses VR Ironman se passe exclusivement sur le home trainer.
Juste avant de poser la question, je dirais que finalement, on se rapproche un petit peu des duathlons qui sont improvisés en cas de mauvaises conditions climatiques sur certaines courses avant d'en arriver à l'annulation de la course.
C'est ça, ouais.
On commence déjà par proposer le remplacement de la natation.
Exactement, ouais. On remplace la natation lorsque le plan d'eau est impraticable ou trop froid ou trop chaud, ou enfin voilà, pour différentes raisons. Et puis, donc du coup, on remplace ça par de la course à pied. En général, une distance assez courte de course à pied, assez dynamique, mais comme ça, ça permet de ne pas avoir un immense peloton qui part en même temps sur le vélo.
Une distance course à pied plus courte, sur un courte distance ou distance olympique, c'est la même chose, voire jusqu'au L, on peut encore l'intégrer, mais sur un Ironman, c'est quoi une distance de course à pied plus courte ? C'est 5 km, 10 km, 15 km ?
Ouais, c'est entre 5 et 10 km, j'imagine. Maintenant, j'ai jamais vu ça sur un Ironman, honnêtement. J'ai eu vu ça sur des Half Ironman où on a rajouté 5 km. Et probablement encore plus court, hein, 1500 mètres probablement sur un distance olympique, quelque chose comme ça, pour juste séparer un petit peu les athlètes pour pas qu'ils partent tous en même temps sur le parcours vélo.
Bon, nous finalement on n'est plus du tout sur du triathlon, quoi. On devient des Iron duathlètes.
Ouais, c'est ça. En gros, c'est un peu ça. Mais c'est ce que propose Ironman sur son format VR. Donc en fait, pour répondre à ta question initiale, c'est-à-dire comment est-ce que ça se déroule, eh bien, en général, on dispose d'un certain laps de temps. En général, c'est une journée pour réaliser les trois disciplines, enfin les trois épreuves, c'est-à-dire la course à pied courte, la course à pied longue et puis l'épreuve de vélo. On les répartit comme on veut dans la journée. Et puis, le but, c'est d'aller le plus vite possible sur les trois épreuves. Et puis ensuite, il y a un classement qui est fait avec le temps total cumulé de tout ça parmi tous les participants.
Bon, alors je sais que la Fédération française de triathlon s'est lancée aussi dans l'aventure des courses virtuelles. J'imagine que sur la partie Fédération française de triathlon, et j'imagine que d'autres fédérations internationales l'ont fait aussi, c'était vraiment plus pour maintenir la compétition, l'émulation, l'amusement, pour que les gens continuent à rester un petit peu en mouvement en respectant quand même les gestes barrières, les règles de sécurité. Sur la partie Ironman, on va pas se mentir, c'est une société, donc leur objectif c'est quand même de faire du business. Est-ce que tu crois que c'est pas vraiment très mercantile de lancer cette solution de course VR ou c'est juste pour amuser la galerie ?
Alors c'est clair que Ironman a lancé ça peu après le début du confinement général en Europe et puis partiellement aux États-Unis pour maintenir sa communauté d'athlètes active et puis leur proposer quelque chose en remplacement de toutes les courses qui s'annulaient en cascade. Et donc cette communauté qui commençait à voir toutes ses courses, tous les objectifs de son début de saison qui tombaient les uns après les autres, il fallait trouver de quoi les occuper, leur donner de la motivation à continuer à s'entraîner. Et je pense que là, la communauté Ironman a bien fait en fait de proposer ce type d'activité juste pour pouvoir continuer à trouver cette émulation, cette motivation à s'entraîner. Et puis continuer à être actif et puis avoir quelques objectifs, même si bien sûr c'est plus les objectifs initiaux, mais continuer à aller vers quelque chose dans cet entraînement.
Alors je suis assez d'accord avec toi sur la première partie de ta réponse. Après je pense que plus tard dans cet épisode on développera un petit peu ce que engendre cette possibilité de courir sur des courses VR et je suis quand même un peu moins convaincu que ce soit juste pour amuser la galerie ou pour maintenir la communauté active.
Alors au début c'était le cas, hein. Au début c'était clairement le cas juste pour maintenir, mais quand les choses ont évolué, donc le confinement s'est généralisé, on a vu que les compétitions de triathlon notamment du circuit Ironman ont vraiment été annulés en domino jusqu'à la fin du mois d'août, assez rapidement. Et puis ensuite, il y a eu l'annonce choc du report d'Hawaï et puis du report des championnats du monde de Half qui devait avoir lieu en Nouvelle-Zélande. sauf erreur en novembre, eh ben là, Ironman a rapidement fait le calcul, mais on n'aura jamais assez de qualifiés pour ces championnats du monde parce que toutes nos courses qualificatives, elles tombent. Et puis les courses qui auront lieu au mois de septembre-octobre, eh bien les athlètes ne voudront pas forcément se qualifier pour les championnats du monde qui auront lieu juste un ou deux mois après. Donc ils se sont vraiment retrouvés face à un problème. Et donc du coup, c'est là que ces Ironman VR qui étaient là juste pour continuer à motiver la communauté, eh bien se sont légèrement transformés et Ironman a commencé à distribuer des slots qualificatifs pour les championnats du monde sur certaines courses Ironman VR. Et donc à mon avis, c'est là que le problème commence réellement à se poser par rapport à ces formats de compétition.
Alors, tu dis que Ironman a commencé à distribuer des slots pour les championnats du monde. On parle bien des championnats du monde de triathlon longue distance, distance Ironman, ou on parle des distances Half Ironman ou 70.3 ou 70.3?
Non, alors pour l'instant, on parle uniquement du Half, donc en fait des championnats du monde qui devaient avoir lieu à Taupo en Nouvelle-Zélande au mois de novembre. Et donc, pour remplir ces championnats du monde, donc ils sont reportés, hein, mais qui auront quand même lieu probablement début 2021 si tout va bien en Nouvelle-Zélande, et ben voilà, Ironman propose des slots là-dessus. Pour l'instant, Ironman n'a pas communiqué de distribution de slots pour les championnats du monde d'Ironman à Hawaï, qui auront lieu en février 2021 au travers des courses Ironman VR.
Ça me fait quand même penser que 2021, si tout se passe bien et s'il n'y a pas de crise sanitaire, ça va être une sacrée année pour le sport. Autant 2020, c'était vraiment une année blanche, mais 2021, on va se taper deux Hawaï, on va se taper deux championnats du monde de 70.3, on va se taper les Jeux Olympiques, ça va être juste génial. Je pense qu'on va tous prendre congé pour passer notre journée derrière la télé.
Ouais, ou alors participer à ces championnats du monde pour ceux qui vont se qualifier ou qui se sont qualifiés, par exemple au travers d'Ironman VR pour ces compétitions.
Alors, tu me coupes l'herbe sous le pied, tu m'enlèves le pain de la bouche, moi, j'aimerais qu'on parle justement de ces qualifications. Alors, pour l'instant, on l'a dit, c'est que sur les 70.3/70.3, même si ça venait à se généraliser pour les championnats du monde distance Ironman, est-ce que tu ne crois pas qu'il y aurait un petit problème au niveau de l'équité, quand même, de ces qualifications? Déjà, je trouve que dans le circuit régulier, ce n'est pas très équitable, et je pense qu'on pourra débattre là-dessus, mais alors en mode VR, ça me laisse vraiment très dubitatif.
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Déjà, sur le circuit régulier, quand on est un age group, donc on court en amateur éclairé pour se qualifier pour les championnats du monde, on peut se retrouver déjà face à des inéquités assez importantes.
Justement, on va peut-être faire un rappel de comment fonctionnent les règles de qualification pour le circuit Ironman.
Pour les age group, donc pour le commun des mortels, donc les triathlètes non professionnels, on se qualifie aux championnats du monde en terminant parmi les premiers de sa catégorie d'âge. Ça dépend en fait du nombre de slots, donc de places qualificatives pour les championnats du monde qui sont assignées à chacune des courses. Elles sont ensuite réparties au prorata du nombre de participants de chaque catégorie d'âge. Donc dans la catégorie d'âge où il y aura le plus d'inscrits, il y aura le plus de places qualificatives qui vont être allouées. En général, sur les Half Ironman, on a entre une et 3 à 4 places qualificatives pour les championnats du monde par course. Donc il faut terminer, mettons, dans les 3 premiers de sa catégorie d'âge pour avoir une chance de se qualifier. Donc si je suis premier, j'ai automatiquement une place. Si je suis deuxième, s'il y a 2 places qualificatives, je prends, etc., jusqu'à épuisement du nombre de places qualificatives. Donc voilà, il faut être le meilleur possible sur une course. Contrairement aux professionnels qui, pendant un certain nombre d'années, accumulaient des points tout au long de la saison, en terminant premier, troisième, cinquième, septième, et puis ceux qui avaient le plus de points à la fin de l'année allaient au championnat du monde. Nous, chez les age group, c'est vraiment le one shot, une course, et on fait le résultat qui nous permet de nous qualifier ou pas.
On l'aura bien compris, un biais et une inéquité déjà au niveau de l'emplacement de la course en termes temporels, parce que évidemment, si tu te qualifies sur un Ironman en janvier pour les championnats du monde qui ont lieu en octobre, en théorie, tu as aussi plus de capacité de récupération et autres, mais aussi par rapport à l'emplacement de la course, j'ai ouï dire que sur le continent asiatique, il y avait beaucoup plus de slots qui étaient distribués, et même des slots sur les 70.3 qui étaient distribués pour l'Ironman d'Hawaï, plutôt que dans d'autres continents comme l'Europe ou les États-Unis.
Bon, ça, c'est des questions géopolitiques géostratégico-économique parce que on sait que pendant les dernières années, le groupe Ironman, donc la marque Ironman, était possédée par un groupe financier chinois. Donc a priori, on comprend que certaines courses en Chine aient été un petit peu avantagées par rapport à ça. Maintenant, c'est plus le cas. Hein. Ironman a été racheté tout au début de l'année 2020. D'ailleurs, ça me fait penser que les financiers qui ont fait cette opération la fin 2019-2020, ils doivent être bien contents d'avoir mis plusieurs milliards de dollars sur la table pour acheter une franchise qui a organisé pour l'instant aucune course pendant l'année. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'au cours des années à venir, ils auront l'occasion de se refaire.
Ils ont organisé aucune course, mais ils ont quand même encaissé les inscriptions pour l'instant.
Oui, bon, après, quand tu...
Bon, ils ont engagé des frais, ok. Après,
et puis, la plupart du temps, ils ont quand même retransféré les inscriptions pour l'année d'après. Donc, non, Ironman a été pas mal critiqué. Je pense qu'il y a eu des choses qui auraient pu être mieux faites, mais globalement, je pense qu'ils n'ont pas trop mal fait les choses. Moi, j'étais inscrit à Thun, tout le monde le sait. Toutes les personnes qui écoutent ce podcast le savent maintenant, qui devait avoir
mais
lieu...
Mais si vous ne le savez pas, vous switchez sur les hors-séries qui se retrouvent entre deux épisodes de la saison régulière. Après bien, il y aura des interrogations surprises. Voilà.
Et donc du coup, mon inscription 2020 a été tout simplement reportée sans frais sur 2021. Donc voilà, aucun problème pour ça. Mais enfin, pour en revenir à nos places qualificatives pour les championnats du monde, donc effectivement sur un Half Ironman, on peut déjà rencontrer donc un vrai. Hein, on peut déjà rencontrer quelques inéquités. Je parlais de la position dans la zone de transition. C'est vrai que si je dois courir 250 mètres de plus pour aller chercher mon vélo puis 250 mètres de plus pour le ramener qu'un concurrent qui est au début de la rangée et moi je suis à la fin, ça peut arriver dans certains cas si c'est mal pensé au niveau de l'ergonomie de la zone de transition. Ben ça peut déjà être un certain désavantage. Ensuite, on parlait du drafting. C'est vrai que les premiers des professionnels sont très surveillés par les arbitres pour pas avoir le droit de prendre la roue et de bénéficier de l'aspiration dans les age groups. Même parmi les meilleurs age groups, on constate qu'il y a quand même un tout petit peu plus de drafting qui se passe, donc des petits pelotons ici et là. Et donc du coup, ça aide beaucoup à gagner quelques secondes sur le parcours cycliste. Et puis ensuite, bah, sur le parcours de course à pied, si j'ai une armée de 15 supporters personnels qui peut me donner mon ravitaillement perso, qui peut me faire un pointage sur ma situation dans la course lors de la course à pied, ben ça peut aussi énormément m'aider à mieux gérer ma course par rapport à quelqu'un qui aurait aucune info de l'extérieur, aucune aide, qui doit se contenter des ravitaillements de l'organisateur. Et donc tout ça, c'est des petits détails, mais qui font que déjà il y a une petite inéquité qui se crée sur les vraies courses de type Ironman.
Ouais, et tout ça, c'est sans parler aussi de toutes les petites assistantes techniques que l'on peut avoir, comme le dopage, dont nous ne parlerons pas sur cet épisode.
Non, c'est pas vraiment la thématique, mais bon, ça c'est un problème plus général, je pense, le dopage. Évidemment que dans les age groups, il y a du dopage, mais enfin, on reviendra peut-être là-dessus dans un autre épisode, mais il y a trop de choses à dire pour qu'on aborde ce sujet maintenant.
Voilà. Donc pour revenir un petit peu sur la différence entre une course Ironman régulière ou 70.3 et une course en réalité virtuelle, déjà tu l'as dit, la première différence c'est que bah, sur un triathlon, on enchaîne les trois disciplines, natation, transition, vélo, transition, course à pied. Oui. Évidemment, celui qui aura le plus de chances de se qualifier, et bah, c'est peut-être celui qui sera mieux placé dans le parc à vélo, et ce sera aussi celui qui fera les plus belles, enfin les plus rapides transitions, ou la transition qui sera la moins douloureuse pour après enchaîner sur l'effort suivant. Là, dans une course VR, on est libre dans la journée, tu l'as dit, en général c'est sur 24 heures, d'organiser son enchaînement ou pas des épreuves, comme on l'entend, dans l'ordre qu'on veut. Donc rien ne nous empêche de faire 5 km de course à pied à 3,30 au kilo, et puis de se poser, d'aller prendre un verre, d'aller se faire masser, de récupérer, et puis après de monter sur le vélo, de faire 4h, 4h30 de vélo, parce que bon, là quand même, on parle de qualification sur Hawaï, donc on est plus sur nos temps à nous, Greg, de 6h, 6h30. Et puis après, bah, pareil, rien ne nous empêche de récupérer un petit peu, d'aller prendre un petit peu le soleil ou d'aller se baigner dans un plan d'eau à côté pour rafraîchir un peu les jambes après 4 heures de vélo et puis d'enchaîner sur un marathon tranquillement. Et puis, rien ne nous empêche aussi d'être assisté pendant ces courses. Alors que sur un triathlon classique, toute assistance extérieure est interdite, rien ne nous empêche là d'avoir sur la partie marathon les enfants, le pote, l'épouse, le mari qui court à côté, qui nous ravitaille, qui nous donne des infos, ou même peut-être de temps en temps qui nous permettent de monter sur la selle pour nous reposer. Qu'est-ce que t'en penses?
Alors déjà, j'en pense que les distances sont pas aussi importantes que ça. En général, les courses VR, c'est des formats qui ressemblent aux distances classiques, donc olympiques, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis je crois qu'il y avait une de ces courses Ironman VR qui représentait vraiment la distance du half Ironman, mais on court pas des Ironman VR de la distance complète. Donc déjà ce petit détail là. Et puis d'autre part, ce que tu dis, effectivement, c'est déjà une forme de désavantage, mais c'est très gentil, Hermano, ce que tu viens de faire, parce que ça veut dire que toi, tu te lèves le matin, tu fais tes 3 bornes, ensuite tu te reposes un petit peu, tu fais une sieste, tu vas faire ta partie cycliste sur le home trainer, tu te refais une petite sieste, puis tu vas courir un 10 ou un semi-marathon. Ok, mais ça, à la limite, on est encore dans les règles de l'Ironman VR. Mais moi, si je te disais que le matin, j'envoie mon voisin qui court beaucoup plus vite que moi avec ma montre cardio GPS courir les 3 bornes, que ensuite je vais descendre à la cage, je vais vérifier que mon vélo électrique que j'utilise pour aller travailler est bien rechargé, que je le mets sur mon home trainer devant le logiciel donc de réalité virtuelle d'Ironman pour faire ma course avec une assistance électrique modérée, et puis que je pédale avec 25% de watts en plus très facilement avec mon vélo électrique, et puis que ensuite je repars faire ma course à pied, et puis que moi je repars faire ma course à pied sur mon 10 ou 21 km alors que j'ai fait un vélo relativement facile avec l'assistance électrique, et puis même encore au-delà de ça, je peux faire d'autres choses. C'est-à-dire que si je prévois de faire ma course Ironman VR le samedi, qu'est-ce qui m'empêche de faire mes 3 km à bloc de course à pied le jeudi, et puis ensuite de prendre mon fichier de données GPS, de l'éditer un tout petit peu pour aller changer juste les time codes qui est à l'intérieur pour modifier la date, et puis ensuite le charger dans ma plateforme d'analyse. Enfin voilà, l'inéquité, elle est beaucoup beaucoup plus grande et potentiellement presque illimitée sur ces Ironman VR. Donc pour s'amuser, pour garder de l'émulsion, de l'émulation dans la communauté Ironman, je suis tout à fait d'accord et c'est une bonne initiative. Maintenant, donner des slots qualificatifs là-dedans, ça me paraît quand même un petit peu limite.
Bon, c'est vrai que moi, j'avais pas vu cet aspect encore plus vicieux. Mais bon, forcément, quand on parle avec un technicien qui connaît tout de ces petites machines qui nous permettent de nous entraîner et de suivre nos entraînements, toi, t'as déjà les choses en tête. Très d'accord avec toi sur toute cette partie inéquité. Et si on pousse le vice un peu plus loin, aller avec le vélo électrique, faire courir le voisin ou le copain ou autre. Mais du coup, à ton avis, quelle serait la solution pour qu'il y ait plus d'équité ? Faire comme Frodeno, se faire suivre par une équipe de télé pour s'assurer que t'enchaînes tout bien et puis que tu respectes bien les règles?
Ça c'est sûr que mettre un juge arbitre derrière chaque participant, ça peut être une solution. Maintenant, je pense pas qu'elle est envisageable d'un point de vue, à plein de points de vue, hein. Mais voilà, je pense qu'il y a pas de solution miracle. La technique peut pas détecter tout ça. Même si tu as des algorithmes qui vérifient, donc c'est pas simplement un fichier Excel qui a été recompilé dans une activité avec une allure extrêmement régulière ou avec des anciens sites qu'on connaissait qui s'appelaient Digital EPO, dans lequel on passait un fichier de course à pied, puis on disait tiens, je veux aller 25% plus vite, et hop, il régénérait le fichier d'entraînement avec 25% de vitesse en plus. Ça, des algorithmes relativement simples peuvent détecter ce type de triche. Par contre, si tu envoies un autre humain faire de la course à pied, l'algorithme va dire c'est bien un humain qui a fait de la course à pied, mais ensuite on n'a pas encore des algorithmes qui permettent de détecter des patterns. Là, au niveau de la cadence de course, de la fréquence cardiaque, de l'allure, de la fatigue, du nombre de calories, c'est bien Hermano qui a couru, on n'a pas encore ça. Et donc du coup, voilà, à mon avis, on n'est pas encore prêt à voir vraiment une équité totale sur des courses VR. Et donc ça doit rester un outil d'entraînement, un outil de motivation, mais ça ne doit absolument pas, à mon sens, être un outil de qualification pour des championnats du monde. Je suis bien conscient que Ironman a des problèmes pour remplir ces championnats du monde qui auront lieu en début d'année 2021, parce que les gens qui se qualifient pour Hawaï, ils n'ont pas forcément envie d'aller à Hawaï, en tout cas en Europe, hein. Ils n'ont pas forcément envie d'aller à Hawaï au mois de février, parce que quand tu sors d'ici de ta saison de ski de fond, t'es pas forcément prêt à aller parcourir un championnat du monde d'Ironman par 30 degrés. Donc voilà, il y a un problème qui se pose, mais à mon avis, c'est pas en qualifiant des gens sur leur home trainer chez eux que Ironman va y répondre.
La question reste ouverte. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution cette année, si ce n'est faire complètement sauter les championnats du monde ?
Non, à mon sens, Ironman aurait pu utiliser d'autres techniques pour qualifier les gens. Par exemple, récompenser les gens qui ont le plus participé à des courses lors des années précédentes. Pourquoi pas ? Ils ont déjà un ranking hein, qui s'appelle All World Athlete, qui classe les athlètes pas par leur performance, mais plutôt par leur fidélité au circuit. Moi, je trouverais pas complètement illogique que dans une période particulière comme celle qui est maintenant, où on peut pas s'affronter par des courses à la régulière sportivement, pourquoi pas proposer un championnat du monde une fois qui est ouvert plutôt aux gens très fidèles, qui n'ont pas forcément les capacités physiologiques de se qualifier pour des championnats du monde en temps normal, et puis récompenser leur base d'athlètes comme ça. Enfin, à mon sens, ce serait déjà un petit peu plus logique que simplement qualifier quelqu'un qui a mieux su tricher qu'un autre.
je vois que tu es très axé sur la triche. Ce n'est pas bien, monsieur Chen. C'est pas bien, c'est pas bien.
Mais écoute, je pense que qui n'a pas pensé à ça quand il a vu les Ironman VR?
Moi, ouais. Moi
j'aimerais que nos auditeurs puissent voir ta tête au moment où tu t'es indigné de ma parole et puis que tu t'offusques de cette vision des choses, toi, innocent participant aux courses Ironman VR en toute honnêteté. Non, mais je pense que voilà, les gens qui veulent participer au championnat du monde, ils ont de la suite dans les idées, et puis il y en a certains qui ont trop de suite dans les idées, puis qui vont... Forcément, il y a des dérives. À mon sens, c'est pas possible que 100% des qualifiés sur les courses VR l'aient été dans des conditions d'équité totale.
Tu crains pas que ça n'engendre de la défiance pour le label Ironman, que ce soit le full ou le half, pour les années à venir?
Alors, je sais pas si Ironman va persévérer une fois que la situation sera revenue à la normale. Je pense pas qu'Ironman va continuer à distribuer des slots qualificatifs pour les championnats du monde sur des courses VR. Je pense pas. Enfin, à mon sens, ça ferait pas. Ouais. Voilà, ce serait pas logique.
Non, moi non plus. Je pensais pas pérenniser le système. Mais est-ce que cet épisode-ci ne va pas engendrer un peu de défiance?
Oui, mais bien sûr. Mais déjà que la défiance, dans mon club de triathlon, on en a parlé dès qu'Ironman a publié les courses Ironman VR qualificatives pour les championnats du monde de half. Tout de suite, on s'est dit, ce sera des championnats du monde au rabais, parce que dedans, il y aura des gens qui se seront qualifiés avec une FTP probable sur leur vélo à 360 watts, avec une VMA à probablement 320 au kilomètre. Et puis tout d'un coup, les mecs, ils vont arriver au championnat du monde de half et puis ils vont faire leur half en 7h10 et est-ce qu'il n'y aura pas peut-être un tout petit problème, un tout petit décalage entre les temps réalisés à la qualification puis le jour de la course? À mon avis, ce sera des championnats du monde dans le palmarès, ce sera un petit peu mis en doute. C'est un petit peu dommage, mais si tu dis j'ai participé au championnat du monde de half en février 2021 à Taupo, on te dira ouais, bon, bah ok, tu t'es qualifié avec un fichier Excel, quoi.
Ouais, mais d'un autre côté, on aura le double effet, c'est-à-dire l'effet des triathlètes réguliers comme nous qui jouons à la régulière, qui tentons les qualifs pour autant qu'on puisse avoir le niveau, et puis et ça passe par les cases entraînement. En chier, pardon pour l'expression, et puis tenter la qualif, et si on y est, alors là on est super heureux d'y être arrivé, mais parce qu'on sait ce que ça représente, et donc ces gens-là qui vont être un petit peu frustrés de voir des qualifications faciles ou des qualifications à la triche en mode VR, d'un autre côté, ça peut peut-être aussi ouvrir des portes à certaines personnes qui savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas aller sur ce genre de championnat du monde pour vivre pour une fois cette expérience.
Oui, mais alors dans ce cas-là, on rejoint ma pensée précédente qui dit mieux vaut récompenser les gens qui, au cours des 10 dernières années, ont participé à d'innombrables courses, mais qui n'ont pas eu la possibilité de participer au championnat du monde, et puis faire un espèce de World Championship avec une grande partie de gens qui sont qualifiés, un petit peu comme maintenant on peut bénéficier de la loterie à Hawaï hein, pour les championnats du monde. Si tu n'as jamais participé au championnat du monde, mais que tu as fait plus que 12 courses Ironman dans ta carrière, et tu peux t'inscrire à une loterie spécifique pour aller faire une fois Hawaï dans ta vie. Pourquoi pas profiter de l'occasion pour faire la même chose sur half, et puis augmenter peut-être la présence d'athlètes sur ces championnats du monde comme ça.
Alors moi, ça me pose aussi une question. Je me dis, quel va être l'impact sur l'aspect physiologique et santé de ces athlètes? Alors on le rappelle, on a fait un épisode, on a enregistré un épisode pendant la période de confinement avec les deux filles de VO2 Sport, où justement on parlait de la reprise du sport post-confinement. On avait vu le cas de différents types d'athlètes, l'athlète qui a effectivement observé le confinement et qui n'a absolument rien fait ou quasiment, l'athlète qui avait que faire du confinement et qui a continué à s'entraîner correctement, s'entraîner comme avant, et puis l'athlète qui est un petit peu entre les deux, je pense là où on se situe un petit peu toi et moi, c'est-à-dire qu'on a sérieusement diminué notre niveau d'entraînement, mais on a essayé de maintenir quand même quelque chose tout en respectant les règles sanitaires. Est-ce que tu crois que, puisque la pandémie s'étend encore aux États-Unis, même si la course aura lieu en janvier ou en février, enfin si ces championnats du monde ont lieu début 2021, que ces gens qui se sont qualifiés soient à la régulière, mais avec un petit peu de chance, soit en jouant un peu avec le système, qui se pointent là-bas et qui n'ont peut-être même jamais couru un half, vont se retrouver à courir un half dans des conditions climatiques qu'ils ne connaissent pas, dans des conditions de course qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a des risques sanitaires pour ces gens-là? Et puis si oui, comment est-ce qu'à ton sens, l'organisation, elle va gérer tout ça? Parce que ce ne sera pas les conditions habituelles de gens qui connaissent déjà l'épreuve.
Pour moi, y aurait eu une inéquité si on avait maintenu des courses comme Nice, fin juin ou comme Thun mi-juillet, parce que dans certaines régions d'Europe on s'est plus entraîné, on a été moins confiné que d'autres. Maintenant, pour moi, si un Hawaï au mois de février et puis qu'on te l'annonce maintenant, t'as le temps de te préparer. Et puis à ma connaissance, les conditions de confinement, à part dans certaines régions très spécifiques, maintenant permettent un entraînement quasi normal dans la plupart des pays occidentaux. Donc à mon sens, voilà, si on te dit au mois d'août, tu vas faire Hawaï au mois de février, et puis que tu peux t'entraîner dans des conditions normales, pour moi il n'y a pas d'inéquité. Et puis l'athlète, il est pleinement responsable d'arriver dans le meilleur entraînement possible. Le confinement a eu pour effet effectivement de désentraîner pas mal d'athlètes pendant un temps donné, parce que on a été enfermés chez nous, puis là effectivement c'était pas une bonne idée d'envoyer les gens juste à la sortie du confinement sur un Ironman, mais pour moi c'était vraiment quelque chose de très court durée. Je veux dire, si aujourd'hui tu me dis il y a 4 ans le type il est allé faire l'Ironman Malaisie et puis il est parti de chez lui où il faisait 23 degrés avec un taux d'humidité de 48%, puis il est arrivé là-bas où il faisait 32 degrés avec presque 100% d'humidité, et puis le pauvre il a pas réussi à être compétitif par rapport aux athlètes qu'il y avait à côté de lui, c'est sa responsabilité de s'entraîner dans les bonnes conditions, et je pense que maintenant c'est pareil.
Donc la question est répondue par notre expert.
Alors moi je suis pas épidémiologue, je peux pas te dire qu'on va pas reconfiner ici ou là, et puis que les courses vont avoir lieu correctement en automne et plus tard, parce que je sais pas comment la situation elle va évoluer, personne sait, hein. Donc pour l'instant on vient un peu au jour le jour, mais maintenant je m'entraîne pour un half Ironman qui aura lieu normalement aux Canaries début octobre. Bah, je vais tout faire pour arriver là-bas prêt pour cette course. Et puis, tant que la course n'est pas annulée, bah, je vais continuer ma préparation. Et je pense que c'est comme ça pour beaucoup de monde. Et ce sera comme ça pour tous les gens qui sont qualifiés pour les championnats du monde quand maintenant ils sont prévus en février 2021.
Du coup, je pense qu'on a fait un bon tour de la question. Est-ce que toi, tu voyais d'autres points à aborder ?
Écoute, je pense que la thématique centrale, donc l'inéquité des courses Ironman VR, hein, qu'on voulait un petit peu pointer dans cet épisode d'un point de vue purement factuel, je pense qu'effectivement, on a bien abordé la question, puis on a aussi un petit peu couvert la problématique que rencontre le circuit Ironman en ce moment pour trouver des gens pour leur championnat du monde.
Vous faites partie de ces athlètes, de ces triathlètes qui participaient à ces qualifications VR. Faites-nous un petit signe, que ce soit sur nos réseaux sociaux, que ce soit peut-être aussi en laissant une revue sur Apple Podcast. On serait intéressé de savoir quel est votre ressenti. Évidemment, on espère que vous l'avez fait à la régulière, parce que vous êtes des fidèles auditeurs de Nakan, donc vous n'êtes pas des tricheurs. Mais ça nous intéresserait véritablement de savoir un petit peu comment ça s'est passé. Et justement, comme on parle de ces compétitions VR qui peuvent être qualificatives, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler où est-ce qu'on peut trouver les liens pour concourir sur ces compétitions, et puis quel est le setup? Alors tu nous l'as dit, il faut soit courir dehors, soit un tapis de course. Si pour la partie vélo, c'est soit dehors, soit sur home trainer. Non, c'est exclusivement sur home trainer, mais quelle plateforme on peut utiliser? Est-ce que c'est les plateformes propriétaires d'Ironman, ou est-ce que c'est du Swift, enfin, ou d'autres plateformes?
Alors sur Ironman.com, hein, on trouve toutes les courses. À mon sens, les courses Ironman VR qualificatives pour les championnats du monde. Alors je sais pas s'ils vont rééditer le truc, mais ça avait lieu courant du mois de juin. Donc au moment où on va diffuser cet épisode, ce sera peut-être un tout petit peu trop tard pour les auditeurs pour s'y inscrire. Maintenant, c'est pas impossible que Ironman renouvelle l'expérience, peut-être avec un format légèrement revu. Hein. Donc le principe, c'est simple, on se crée un account sur le site d'Ironman VR. Donc ça, on trouve le lien sur le site Ironman.com. Et puis là, on va en fait lier notre plateforme d'entraînement favorite, donc Garmin Connect, Polar Flow ou Suunto ou d'autres, à une plateforme qui a noué un partenariat avec Ironman pour centraliser les données d'entraînement. Et puis on va envoyer directement les données de sa montre de course à pied et puis de son analyse de performance sur le home trainer, puisque c'est l'application de réalité augmentée Ruvi qui est le partenaire officiel d'Ironman sur ses courses VR. Et puis ensuite, comme tous les résultats sont synchronisés automatiquement sur cette plateforme, ben Ironman compile en fait les données de la journée pour laquelle on s'est inscrit pour l'Ironman VR et puis créer un classement à partir de ça.
Ça c'est bien parce que ça nous permet de réintroduire certains épisodes qu'on a fait, notamment l'épisode sur la gestion des données par toutes ces plateformes d'entraînement ou ces plateformes de compétition en ligne. On pourra renvoyer nos auditeurs là-dessus, podcast.nakan.ch, et puis vous cherchez données dans la barre de recherche. Je pense qu'il y aurait pas mal de choses à dire si on faisait revenir notre expert du sujet.
Oui, oui, alors je pense qu'effectivement, on avait déjà bien abordé la thématique dans cet épisode de la saison 1, donc... Voilà, c'est tout à fait encore d'actualité sur les plateformes aujourd'hui et sur cette nouvelle plateforme proposée par Ironman.
Et puis, bah, juste pour conclure, moi je dirais que Ironman s'est lancé dans cet exercice des courses VR qui peuvent être qualificatifs pour les championnats du monde parce qu'ils avaient un problème au niveau des participants potentiels. J'imagine que maintenant, ils croulent sous les demandes, ou du moins, ils croulent sous les slots possibles et j'espère que leur algorithme fonctionne un peu mieux. Que certaines attributions de slots sur les compétitions régulières.
Bah écoute, ça c'est... En général, chez Ironman, ça fonctionne pas trop mal. Il y a quelques couacs, mais en général, c'est quand même relativement assez efficace chez eux.
Ouais, relativement. Je te rappelle certains épisodes de Athlete Tracker quand tu faisais des compétitions où je voyais ton résultat 48 heures plus tard. C'était assez sympa. Ouais, mais alors, ça n'avait pas forcément bien marché.
C'était pas de la responsabilité d'Ironman. C'était parce que j'avais perdu ma puce de chronométrage pendant la partie natation. Donc, les pauvres, si je passe sans ma puce sur les tapis de chronométrage, ils peuvent pas deviner que c'est moi non plus, monsieur Hermano.
Bon, t'étais pas obligé de le dire. On cassait du beurre sur le dos d'Ironman.
Non, mais en général, ça fonctionne pas trop mal. Il y a quelques couacs des fois dans le suivi en direct, en temps réel des athlètes, mais en général, les résultats sont corrects et conformes à la réalité sur les classements finaux.
Oui, bien sûr, c'était un tout petit peu de mauvaise foi. En tout cas, juste pour terminer, bah, on vous exhorte encore une fois à vous rendre sur les plateformes des réseaux sociaux ou sur les plateformes de podcast sur lesquelles vous écoutez votre épisode pour nous laisser un petit commentaire, une petite revue, comme d'ailleurs l'a très bien fait Eric 130566 début juin, où il nous a dit que les thèmes abordés sortent de l'ordinaire et l'ambiance est très sympa. Continuez comme ça, c'est top. Merci à toi Eric et puis merci aux 44 autres auditeurs qui nous ont déjà laissé un commentaire. Vu le nombre d'écoutes que nous avons sur nos épisodes, je pense qu'il en manque encore un bon millier, si ce n'est 2 000 000, qui n'ont pas encore mis de commentaires. Donc s'il vous plaît, allez mettre un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide à remonter dans les classements et puis à être connu et à diffuser la bonne parole.
Ouais, si elle est bonne.
Et bien sûr.
À nos auditeurs de juger.
Greg, merci beaucoup pour cet épisode. Je te laisse retourner au travail. On va quitter les oiseaux.
Oui.
Et puis, je souhaite une bonne semaine à nos auditrices et à nos auditeurs. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci à toi, Hermano. Et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.